Je vais vous lire une liste d'émotions et vous devrez prendre conscience de votre réaction à chacune de ces émotions et éventuellement trouver l'intrus. Peur, anxiété, colère, tristesse, honte, culpabilité, désir. En ouvrant les yeux, est-ce que il y a un intrus dans la liste? qui a pensé désir spontanément en l'entendant? Oui. C'était la réaction attendue. Parce qu'il y a un élément, et je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que je ne suis pas sociologue ni ethnologue, mais dans les difficultés qu'on a avec toutes les conduites qui créent de la dépendance, il y a un élément aussi culturel où le désir, c'est assez cool.
C'est assez chouette.
Ouais. C'est assez bien vu. D'ailleurs, je reçois régulièrement des emails qui me proposent d'augmenter le mien, souvent dans la catégorie spam. Donc, clairement, c'est quelque chose qu'on cherche à augmenter. Je reçois pas les emails qui me proposent d'augmenter ma peur ou mon anxiété ou ma culpabilité. Et il y a eu, je pense à mai 68, je pense à ce moment où on a rejeté les excès du puritanisme qui disait que trop manger c'était mal, que trop faire l'amour c'était mal, que trop. Et on s'est dit, c'est vraiment nul, c'est interdit. Alors,
Il est interdit d'interdire,
et les désirs, ils ne sont problématiques qu'à cause du puritanisme qui veut les étouffer, mais c'est une bonne chose de désirer. Plus on désire, plus on est heureux, si je veux schématiser. Et c'est possible qu'on ait jeté l'eau du puritanisme, le bébé et tout ça ensemble, parce que c'est un état qu'on ne considère plus comme problématique, alors que, objectivement, ben, les vols, les viols, les coups d'État, les détournements de fonds et toutes les formes de dépendance ont comme moteur un désir plus ou moins pathologique de quelque chose. Hein. Donc c'est pas du tout. Ben, finalement, c'est comme toutes les autres émotions et états de base. Il est indispensable. Il a des bons côtés, mais il peut devenir problématique en fonction des circonstances. C'est pas un état arc-en-ciel à paillettes. Il a son côté obscur comme les autres émotions l'ont aussi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a perdu, largement perdu de vue. Une définition, justement, si on veut envisager le désir dans ce côté obscur, que je trouve extrêmement juste. Le désir est un état qui peut transformer un état de satisfaction et de contentement en un état d'insatisfaction, de manque, hein, et de mécontentement. Vous avez l'iPhone 4, il est merveilleux. Pouf, l'iPhone 5 est sorti. Votre iPhone 4 est décevant. Il vous faut l'iPhone 5.
Ouais, toujours plus.
C'est... Toujours plus. Mais c'est ce qui se passe. C'est vrai que quand on est parfaitement heureux dans sa cuisine, après avoir mangé, on n'a pas trop mangé, on se sent bien. Et tout à coup, et si je mangeais un chocolat? Et paf! Il y a quelque chose qui manque. Avant, j'étais bien. Maintenant, il me faudrait un chocolat pour être bien. Alors, c'est évidemment pas la seule chose que fait le désir. C'est pour ça qu'il est plaisant et qu'il a ses bons côtés. C'est aussi un moteur à l'action important. Sans désir, il y a finalement, la conduite de notre vie serait beaucoup plus compliquée parce que la capacité à nous investir dans un projet, est motivé presque toujours par le désir de quelque chose, par cette même force qui nous fait aussi manger le ragusa à 10h moins quart. Donc, c'est évidemment une émotion qui a ses bons côtés, mais son mauvais côté, c'est ça. C'est de fabriquer de l'insatisfaction là où il y avait un relatif contentement, une satisfaction avant son apparition. Alors, sondage, vous pouvez fermer les yeux. Sondage numéro 2. Quelles sont vos désirs à problème. C'est-à-dire, on parle d'un désir à problème quand il prend trop de place, au détriment d'autres activités, ou parce qu'il conduit à des comportements qu'on va regretter ensuite. Une définition encore plus simple, si on voulait vraiment aller à l'essentiel, un désir ou une envie qu'on a souvent suivi, même en sachant qu'on le regretterait après. Ça, c'est la catégorie d'envie problématique. Alors, je vais vous lire une liste de domaines dans lesquels elles peuvent s'exprimer. Qui n'est pas exhaustive, mais je pense que la plupart sont là. Envie ou désir, en vous posant à chaque fois la question, est-ce que pour ce domaine, il arrive que ce soit problématique pour moi, c'est-à-dire qu'il arrive que je regrette d'avoir suivi cette envie, que j'ai l'impression qu'elle prenne trop de place et m'éloigne d'autres choses qui sont aussi importantes. Envie de nourriture. Envie d'argent. Envie de travailler. Envie de sexe ou pornographie. Envie de drogue. Envie de cigarette. Envie d'alcool, envie de médicaments, envie d'acheter quelque chose, par exemple sur Internet ou ailleurs, envie d'achat, envie de jeu au sens de jeu d'argent, jeu le hasard. Parfois, envie de ranger et de nettoyer. Envie de regarder la télévision. Envie de réseaux sociaux. De passer du temps sur les réseaux sociaux. Envie de tout ce qu'on fait sur les petits et les grands écrans de toute taille, smartphone, tablette, ordinateur. Ok, en ouvrant les yeux, est-ce qu'il y en a au moins, qui en a au moins un problématique dans la liste ? Qui en a au moins deux? Qui en a au moins trois? Ok. On va s'arrêter là. Je ne veux pas exposer. Donc, on voit là que ce désir bien vu nous pose quand même quelques problèmes dans plus d'un domaine, généralement. Et on sait que les dépendances avec propulsées par Internet sont plus un problème de santé publique depuis 15-20 ans qu'auparavant. Donc c'est un problème psychologique qui prend plus de place qu'avant. Ce que ces dépendances ont en commun, généralement, quand elles deviennent problématiques, il y a la notion d'abus ou de binge, hein, par exemple avec la nourriture, si on mange beaucoup d'un coup, si on passe plusieurs heures sur Facebook à la suite, c'est une notion de quantité. Quand on a des moments de transe où on consomme de l'activité ou de la chose en quantité plus importante que normalement, on a des problèmes de sevrage, on a la peine à vivre sans, hein, cette chose. Et si vous pensez aux petits écrans et aux réseaux sociaux, il y a vraiment maintenant des personnes pour qui il y a de véritables symptômes de sevrage. Quand elles sont privées de contact avec Internet. Le binging, donc l'abus, le sevrage, la tolérance, ce phénomène de tolérance qui fait qu'on a une moindre satisfaction avec le temps pour la même quantité. Donc on a besoin ou qualitativement de quelque chose de plus intense ou quantitativement de davantage pour chercher à obtenir la même satisfaction. Petit à petit, c'est plus difficile de l'obtenir. Et ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles font toutes travailler le même circuit neuronal de la récompense. C'est vraiment la même chose. Pour beaucoup de ces activités, si on fait un scan de ce qui se passe dans le cerveau, il y a pas forcément de grande différence. C'est toujours le même circuit qui s'active, ce circuit de la récompense. Alors, pour donner juste quelques informations pour nourrir l'esprit et peut-être même la faim de l'esprit, on sait que le sucre, par exemple, contribue à un problème de santé publique, qu'on en consomme trop. Mais le sucre active le circuit de la récompense de la même façon que la cocaïne. Et en fait, les rats, ces pauvres rats, quand on pense tout ce qu'on leur fait subir, les rats auxquels on donne une solution contenant de la cocaïne et une solution contenant du sucre préfèrent le sucre à la cocaïne. Et le circuit de la récompense est activé de la même manière quand on étudie le cerveau de dépendants à des drogues, quand ils voient en fait des images qui évoquent leur drogue de prédilection, il y a une réaction qui est un marqueur typique, parce que cette réaction sera différente, je crois, en termes d'intensité entre une personne dépendante et une personne non dépendante. Donc un consommateur occasionnel de cocaïne, si on lui montre de la cocaïne, il n'aura pas la même réaction dans son cerveau que quelqu'un qui est vrai, qui est complètement dépendant. Et c'est vrai pour toutes les autres, tous les autres produits qui peuvent créer de la dépendance. Et on a comparé l'activité dans le cerveau de personnes qui se disent dépendantes du sucre ou qui ont un problème de consommation de sucre quand on leur montrait des images de milkshake, et celles de dépendants à des drogues quand on leur montrait l'image de leur drogue. Et c'était tout à fait comparable à ce qui se passait dans le cerveau. C'est extrêmement démoralisant, mais c'est quand même important de le mentionner. Pour la dépendance à la pornographie, c'est aussi comparable à toutes les autres dépendances, donc l'effet sur le cerveau est le même. Et puis, la première exposition à la pornographie, d'après une experte qui donnait un TED Talk sur le sujet, chez les enfants maintenant, l'âge de la première exposition est de 8 ans aux États-Unis. Et l'âge des plus jeunes dépendants, c'est 11 ans. Donc ceux qui sont vraiment dépendants à la consommation de films pornographiques ont 11 ans, et la première exposition est à 8 ans. Donc, comme la nourriture, la pornographie joue sur un mécanisme qui est lié à la survie de l'espèce, n'est-ce pas ? Donc qui a encore plus de force comme vecteur de dépendance que quelque chose qui serait détaché d'une impulsion basique de la nature humaine. Donc les jeunes, on peut quasiment parler d'enfants, de préadolescents qui sont dépendants, on pense beaucoup au danger des images qu'ils voient, trop jeunes pour les voir, et bien sûr que c'en est un, mais l'autre danger, c'est d'être dépendant de quelque chose, de quoi que ce soit, aussi jeune, parce que la dépendance est censée les menacer quelques années plus tard, à part pour le sucre. Ils peuvent déjà être dépendants du sucre à 11 ans, mais qu'ils puissent l'être déjà de la pornographie. C'est aussi un signe de plus que Internet favorise l'accès à toutes les dépendances. Même pour commander de la drogue, apparemment, c'est plus facile maintenant de le faire par Internet. Les réseaux sociaux, il y a des mécanismes de dépendance qui ont été montrés par la recherche, donc y compris sevrage, et les circuits, ces fameux circuits dopaminergiques du cerveau, on a pu montrer qu'ils étaient activés par les likes, le nombre de likes que quelqu'un voyait en ayant posté quelque chose sur Facebook ou sur Instagram. Et plus, et ça c'est aussi typique, plus un dépendant utilise Facebook, moins il est satisfait. Donc comme pour toutes les substances qui peuvent créer une dépendance, il y a un moment où il n'y a plus aucun plaisir, en fait, aucune satisfaction, mais juste une recherche constante de la satisfaction qu'on avait eue et qu'on n'arrive plus à retrouver. Donc un phénomène de tolérance. Donc on a montré qu'il y avait du sevrage et qu'il y avait de la tolérance. Donc on est complètement dans le domaine de la dépendance classique avec les réseaux sociaux, pour les personnes évidemment qui sont dépendantes. Concernant les téléphones portables, je ne veux pas être démoralisant, mais il y a une étude qui m'a frappé. Ils ont pu corréler l'usage du téléphone portable avec une augmentation qui n'avait pas été vue depuis des dizaines d'années dans le nombre d'accidents qui touchaient les enfants. Donc les accidents domestiques qui concernaient des enfants, ça, une courbe qui a fait tranquillement, jusqu'en 2005, 2006, c'est pas l'iPhone, c'est 2007, et ça a recommencé à monter. Et ils ont été très malins parce que il y a une époque aux États-Unis où l'iPhone, qui était quand même le premier smartphone qui s'est bien vendu, n'était disponible que chez AT&T et pas chez les autres fournisseurs d'accès. Donc, ils ont comparé l'hospitalisation des enfants. Ils ont regardé le numéro de téléphone des parents à l'époque où seul AT&T avait l'iPhone. Et il y a une différence significative. Et au-delà de ça aussi, dans les rapports qui établissent les raisons pour lesquelles l'accident a eu lieu, le téléphone est évidemment de plus en plus souvent mentionné. Tout ça n'est pas très rassurant. Hein? Donc c'est vraiment un problème qui est en augmentation. Alors, pour ne pas tomber dans le néo-puritanisme, ce que ces études suggèrent pour moi surtout, et si on prend l'exemple du sucre, mais aussi des réseaux sociaux, c'est plus, c'est pas de prôner l'abstinence, mais de reclassifier ces activités. C'est-à-dire, par exemple, pour l'alcool, on a une vision assez claire. Il y a les personnes qui disent « moi, je m'abstiens », et on comprend qu'elles le disent. On ne trouve pas que ce sont des extraterrestres. Y a les personnes qui disent « moi, je consomme occasionnellement », d'autres qui disent « moi, je consomme quand je veux, chaque jour ». Et il y a une espèce de vision sur l'alcool qui inclut le fait que c'est un produit potentiellement dangereux et que donc on peut s'en abstenir complètement ou contrôler délibérément sa consommation. Et tout ça est normal. C'est plus un changement dans la façon dont on considère ces différentes choses. Alors, c'est un problème, à peu près tout le monde est concerné par au moins un aspect de ce problème. Comment explique-t-on qu'on ait tellement de difficultés avec les dépendances et pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de les contrôler? Alors, je viens de lire un livre sur la dépendance et la pleine conscience. Et il explique ça, je trouve, très simplement. D'abord, on fait quelque chose qui est agréable. Par exemple, on mange un truc sucré et on trouve que c'est bon. Et jusque-là, pas de problème. Après, on se rappelle que c'était bon quand on mangeait un truc sucré. Et quand on vit quelque chose de désagréable, on se dit « ah, mais il y avait ce truc qui m'avait fait du bien ». Donc, on a une utilisation secondaire du moment de plaisir, c'est qu'on l'utilise pour diminuer l'impact d'un moment de stress. Et ça va nous pousser à utiliser de plus en plus ce système qui marche bien, et si c'est le sucre ou si c'est ces autres activités-là qui enclenchent ce circuit de la récompense, c'est bien pour ça qu'on les a trouvés agréables d'ailleurs, la première fois qu'on les a pratiqués, il y aura ce phénomène de tolérance qui va faire que ce sera de moins en moins satisfaisant si on plus on l'utilise en fait, souvent, en relation avec des moments de stress, moins ça nous apportera le plaisir que ça nous avait apporté au départ quand on l'avait simplement pratiqué sans que ce soit en réaction à de l'insatisfaction. Et après, on en prend conscience de ce problème et de cette absence de satisfaction. Mais on continue. Pourquoi ? Parce que quand on est en état de stress, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'était pas le cas la première fois, le premier contact avec la chose agréable, mais quand on est en état de stress, notre préfrontal est désactivé, est inhibé par le circuit du stress, donc cette magnifique partie de notre cerveau qui est capable de dire « mauvaise idée, la dernière fois tu t'es pas senti bien », est désactivé. Donc on va vers les réponses les plus automatiques, les plus pratiquées, les plus classiques, les plus archaïques, plutôt que de réfléchir à ce qui nous conviendrait vraiment. Les mauvaises habitudes, ou les habitudes tout court en fait, l'emportent sur les nouvelles possibilités, et on n'a pas la capacité de trier entre les bonnes impulsions et les mauvaises impulsions. Une des conséquences aussi du fait qu'on n'a pas de réel contrôle quand on est dans un état de stress sur les impulsions, sur les envies, je pense que ça brise le mythe du contrôle total qu'on a sur nous-mêmes. Et donc ça peut aussi là créer une relation différente à ce qui nous pose problème. Par exemple, on peut choisir en effet de ne pas entrer dans une boulangerie si on sait que d'y entrer nous expose à un achat qu'on regrettera ensuite. Ces attitudes d'évitement, en fait, où on se dit c'est pathologique quand même, je devrais être capable d'entrer dans un supermarché, d'aller au rayon pâtisserie du supermarché, c'est absurde que je l'évite volontairement. Et en fait, c'est pas absurde, parce que si on est dans un état légèrement stressé, ou si on est fatigué, ou si, on n'a en effet pas de contrôle sur nos comportements. Donc ces conduites d'évitement, c'est pas un constat d'échec. C'est pas le signe qu'on aurait dû, on devrait être capable et on n'est même pas capable, donc on est obligé de ne pas entrer ou de ne pas s'approcher. C'est finalement complètement légitime de choisir de ne pas s'exposer à quelque chose de problématique pour nous. Maintenant, ça c'est une option, hein, l'évitement. Mais la méditation est l'option numéro 2, enfin elles peuvent être complémentaires, parce qu'elle renforce le préfrontal. Donc, en méditant, on active le préfrontal, et en méditant, on renforce notre capacité à l'activer. Donc, plus on médite, plus notre préfrontal est susceptible d'être mobilisé quand on en a besoin. Et si on médite au milieu d'un moment de stress, on le réactive, alors qu'il avait été inhibé par le stress. Et c'est ce que nous allons faire après la pause. Mais réfléchissez à une envie problématique récente ou marquante à laquelle vous aviez cédé et que vous aviez regretté d'avoir suivi après coup, pendant la pause. Est-ce que vous avez une envie en tête, un moment où vous avez eu une de ces envies à problème ? Alors, s'il y a certaines personnes qui cherchent encore, ce sont souvent des situations où on a faim, où on est en colère, où on se sent seul ou fatigué. C'est parfois pour anesthésier quelque chose, réconforter, distraire. Quand vous avez une situation à l'esprit, prenons le temps de vous rappeler de l'endroit où vous étiez, des circonstances, en vous remémorant peut-être l'instant où cette envie, avant de lui avoir cédé, où cette envie était la plus forte. Un moment où vous n'aviez pas encore cédé, mais où l'envie était la plus forte. Est-ce que vous pouvez vous remémorer de comment c'était pour vous? Comment décririez-vous l'état du corps, physiquement? Quelle sensation ou quel état du corps? Dans quel état était votre esprit? Comment est-ce que vous décririez la qualité d'un esprit qui est pris, occupé par cette envie? Comment est-il? Comment sont vos pensées? Quel nom est-ce que vous donneriez aux émotions, s'il y en avait, qui étaient présentes? Comment est-ce que vous décririez les sensations ou l'état du corps? Fatigué? Agité? Ça se manifestait comment? C'est pas facile de le décrire. Au niveau émotionnel, de la tristesse? D'autres émotions? Colère? Ouais. Déception? Oui. Anxiété? Physiquement, il y a autre chose qui vous est venue. C'est vrai que c'est difficile. Une espèce de tension que je sentais très intérieure, j'ai l'impression. Un manque, oui. Physique. Et intéressant, la qualité de l'esprit. Comment était l'esprit? Au niveau des pensées, vraiment l'aspect cognitif.
Il n'y a plus qu'une chose.
Une restriction de champ. Il n'y a plus qu'une seule chose. Quelqu'un d'autre se reconnaît là-dedans? Ouais. C'est exactement ça. C'est un des aspects les plus souvent décrits. C'est assez universel. Il n'y a plus qu'un truc. Est-ce que cet état que vous avez décrit au niveau physique, émotionnel, mental, est-ce qu'il était agréable à vivre? Non, c'est intéressant, à part ça, mais c'est pas agréable. Et une des raisons, et franchement, c'est parfois pas loin d'être la seule raison pour laquelle on cède à cette envie, c'est pour que cet état s'arrête. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre qu'on n'est plus dans cette situation où on est en contact avec quelque chose de plaisant et on en profite et on est content. On est dans une situation où on est face à quelque chose de déplaisant et un des moyens pour que cette chose déplaisante s'arrête, c'est de céder l'envie parce qu'on aura un nouveau problème peut-être, la honte ou le... Voilà, mais ça viendra plus tard. Mais on neutralise cet état désagréable dans lequel on est pris. Alors, il y a l'état primaire, parce que souvent, il y a une émotion, une frustration, une anxiété, une tristesse, et puis on a ce besoin de consolation, et puis ensuite, quand c'est avec quelque chose dont on sait que c'est problématique, on a un état de tension qui va avec l'envie, qui fait qu'on ne profite pas vraiment, que cet état d'envie n'est pas vécu comme quelque chose d'agréable. Et qu'on y cède aussi pour que l'envie s'arrête, en fait. C'est une observation très intéressante aussi à faire quand on se retrouve dans cette situation-là. C'est aussi ce qu'on va chercher à faire avec l'exercice suivant. Alors, si vous trouvez que ce premier souvenir est un peu usagé, vous pouvez en choisir un autre, ou si vous trouvez qu'il a toujours un bon punch, vous pouvez le reprendre pour l'exercice suivant. Un exercice qui s'appelle « Surfer sur les désirs ». Vous pouvez prendre une position agréablement méditative, assise. Les envies ne sont pas différentes des autres émotions, des autres états d'esprit. Ce sont des vagues. Elles montent et ensuite elles redescendent. Et la seule question qui compte pour les émotions, pour les états d'esprit difficiles, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec notre attention en attendant que la vague redescende. En prenant à nouveau le temps de vous souvenir d'un moment, un moment où vous avez ressenti cette envie problématique, problématique pour vous, en vous remémorant un peu l'histoire, ce qui vous a conduit à être dans cette situation, ce qui s'est passé peut-être juste avant. Comment est-ce que ça a commencé pour vous? Et en vous rappelant à nouveau de l'instant où cette envie était la plus forte. Quel nom est-ce que vous lui donnez? C'est une envie de quoi? Prenant le temps intérieurement de la nommer. Envie de... Et à cet instant où elle est la plus intense, si vous évoquez à nouveau ce moment précis, sur votre échelle personnelle de zéro, une envie complètement résistible, à 10, une envie à laquelle il est très difficile de résister, quelle serait la valeur de 0 à 10 pour celle-là? Et en prenant conscience, avec autant de curiosité et de précision que possible, de la façon dont cette envie se manifeste physiquement, de la façon dont elle s'est manifestée dans le corps. Quand vous y repensez maintenant, est-ce qu'il y a un endroit dans le corps où la sensation est plus présente? En restant focalisé sur les sensations, instant après instant. Est-ce que cette vague de sensations est montante? Est-ce qu'elle est descendante en intensité? Et dans cette situation, en laissant les sensations, pour vous tourner maintenant vers les autres émotions, d'autres états d'esprit qui étaient peut-être présents, qui sont peut-être présents, quand vous y repensez, à part l'envie, qu'y avait-il d'autre comme émotion et état d'esprit? Prenons le temps de les nommer. Et en tournant votre attention vers la respiration, vous pouvez utiliser le comptage de la respiration ou la note mentale si ça vous aide pour que votre attention soit vraiment pleinement absorbée pendant quelques minutes par l'observation de la respiration. Et en observant comment sont les sensations dans le corps maintenant, est-ce que quelque chose a changé ? Comment est la tonalité émotionnelle? Neutre, agréable, désagréable. Et dans cette situation, avant de choisir comment répondre à cette envie, vous pouvez prendre le temps, en imaginant que vous êtes à nouveau à cet endroit, à ce moment où vous avez ressenti cette envie, vous pouvez vous demander qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour vous faire du bien. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour prendre soin de vous? Et finalement, une question très ouverte, de quoi avez-vous vraiment envie dans cette situation? C'est toujours délicat quand on revisite et qu'on n'est plus dans le feu de l'action. Pour qui est-ce que la sensation est revenue suffisamment nettement pour que vous puissiez la sentir durant l'exercice? Okay. Parce que parfois c'est très dilué ou on retrouve rien finalement, ça peut être vide. Hein? Vous lui auriez donné quelle intensité? Quelques chiffres, moi je devais être à 7 ou 8. Ouais. Et après être passé par la case respiration, chez qui est-ce que c'était moins intense le ressenti physique? Donc finalement, c'est très proche de ce qu'on fait dans un moment de stress. Hein. On veut vraiment réactiver ce préfrontal qui est associé à la pratique méditative et qui nous rend un petit peu de lucidité ou de clarté d'esprit dans ces moments-là. C'est pas tellement différent. Simplement, on est face à un état, l'envie, qui n'est pas la même chose que quand on est face simplement à de l'anxiété ou à de la tristesse ou à de la colère. C'est encore différent pour nous. Hein. C'est une qualité différente. Mais le principe est finalement le même. On se remet dans un état un peu plus méditatif et ensuite, quand on l'a fait, on peut prendre des décisions qui correspondent plus à nos véritables besoins. Je ne vais pas vous demander quelles réponses vous sont venues, de quoi aviez-vous vraiment envie. Moi, je sais que c'était de dormir, en fait. Ça, simplement. J'avais besoin et envie de dormir. Je n'avais rien à faire dans la cuisine, devant l'armoire. Et les autres choses que vous auriez pu faire pour prendre soin de vous, ça m'intéresse peut-être d'avoir quelques idées, si vous voulez bien partager. Les autres choses que vous auriez pu faire pour vous faire du bien dans cette circonstance-là. Contact avec quelqu'un, oui. D'autres choses. Un livre. Chanter. Oui. Il y a d'autres choses. Sortir. Oui. D'autres moyens, en fait, d'obtenir la même distraction, mais avec moins de conséquences désagréables sur le long terme. Oui. Ce qui est merveilleux quand on s'est posé la question, c'est que rien ne nous oblige à ne pas céder à l'envie. Parce que, et ça c'est l'étape numéro 2, quand on est en pleine conscience, ça ne veut pas dire qu'on va forcément ne pas manger par exemple ce qu'on avait envie de manger. Mais on peut le manger avec un état d'esprit différent, avec une attitude différente. comme le désormais célèbre exemple de mon Choquito du distributeur Selecta de Fribourg le montre, le même Choquito mangé une fois en parfaite absence était très désagréable, surtout après, mais même pendant. Et puis quand je l'ai mangé en assumant, en ayant vraiment envie de le manger et en le savourant, c'était une bonne expérience. Donc et c'est extrêmement important en fait, parce que si on se limite à cette notion de contrôle de l'envie, c'est pas suffisant. C'est important de pouvoir surfer sur les envies et de pouvoir sortir de cet état-là, ne serait-ce que parce que cet état est désagréable, qui va nous empêcher de profiter vraiment de ce qu'on va manger après. Donc ne serait-ce que par égoïsme épicurien, se sortir de cet état de transe de l'envie, c'est quelque chose de très positif. Mais ça ne nous empêche pas forcément d'y céder. Mais ensuite, on y cède en pleine conscience. Et c'est ce que j'aimerais vous proposer maintenant. Et en prenant la nourriture dans la main et avec vos yeux en appréciant, et les yeux seulement pour commencer, et sur la seule base de ce que voient vos yeux, quelle est l'intensité de votre envie d'en manger de 0 à 10 ? Le nez, et quelle est l'appréciation de la fin du nez de 0 à 10 ? Et une première bouchée, en appréciant de façon fine et précise le goût, la forme, et sur la base de l'intensité de ce que vous ressentez en bouche, de 0 à 10, une appréciation quand vous avez avalé, prenant conscience de l'estomac, votre estomac veut-il plus de cette nourriture ? En appréciant la réaction des cellules du corps, est-ce que le corps, est-ce que vos cellules en veulent plus ? Comment est-ce que ça se manifeste pour vous ? Que dit l'esprit sur cette nourriture ? Quelle est son évaluation, son jugement ? Quels sont ses conseils ?
Et à quel point votre esprit vous encourage-t-il à en manger plus de 0 à 10? Et le cœur, la faim du cœur. À quel point cette nourriture peut-elle vous apporter du réconfort, du bien-être? De 0 à 10. Et regardant à nouveau, appréciant à nouveau la fin des yeux, la fin du nez, est-ce qu'il y a une différence? Une deuxième bouchée. Comment est l'intensité de la satisfaction en bouche? Et votre attention reste focalisée sur la bouche et dès que vous en avez la possibilité, vous prenez une morse de plus. Et avec cette troisième morse, en appréciant à nouveau, comment est le goût, comment est l'intensité de la satisfaction en bouche? Et dès que vous en avez la possibilité, en prenant courageusement une quatrième morse. L'attention centré sur l'intensité de la satisfaction en bouche. Comment le goût continue de se développer? Comment est-ce qu'il change? Et vous avez la possibilité optionnelle d'une cinquième ou d'une sixième bouchée, pour explorer comment le goût évolue et comment la satisfaction évolue en bouche. Et comment est la satisfaction en bouche maintenant? Qui a vécu quelque chose de similaire? C'est-à-dire un épuisement assez rapide de l'intensité, du coup? Moi, c'était aussi le cas. Chez qui est-ce que c'est allé crescendo? Ça dépend ce qu'on mange, c'était du salé? Ouais. Donc, chez qui ça a globalement diminué d'un rythme plus ou moins rapide? Ok. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait cette expérience avec finalement une quantité très raisonnable. Hein. Donc, avoir une crise
de quelque chose qu'on veut manger en pleine conscience, ça ne veut pas dire nécessairement s'arrêter là, à la quatrième bouchée. On peut continuer, on a le droit de continuer. La seule condition, c'est qu'on soit en pleine conscience, en fait. C'est qu'on mange vraiment consciemment chaque morse, en se concentrant sur le goût, pour que pour qu'on ait un maximum de plaisir, en fait, pour que ce soit une bonne expérience, puisque c'est ce qu'on recherche, c'est du plaisir et de la satisfaction, qu'on trouve ce plaisir, cette satisfaction. Et on aura ou bien la surprise, la bonne surprise, de réaliser qu'on s'arrêtera plus tôt que d'habitude, et l'autre bonne surprise, qu'on aura eu du plaisir, ou bien on n'aura pas la bonne surprise qu'on s'arrêtera plus tôt que d'habitude, mais on aura la bonne surprise d'avoir eu beaucoup plus de plaisir que d'habitude. Donc c'est gagnant-gagnant, parce que même si ce qu'on y gagne, c'est uniquement du plaisir et pas ce changement qu'on espère secrètement, qui serait de manger moins, la nature problématique, c'est que ça génère du déplaisir, ces moments-là. Là, on a fait un exercice qui a duré peut-être 5 minutes, mais tu prendrais le temps juste de te dire, mais je ressens quoi physiquement, cette envie, c'est une envie de quoi, je la sens où, et puis tu prendrais 3 respirations, tu aurais déjà un changement. On connaît tellement bien ces expériences que c'est assez facile de court-circuiter, de trouver des moments où les interrompre. Et puis si c'est pas facile tout de suite, c'est égal. Parfois, de commencer à y penser, tu peux te le dire juste après, ah tiens, j'aurais pu le faire en pleine conscience, je l'ai pas fait. Et ça, c'est déjà l'amorce d'un moment où tu pourras le faire plus tôt. À partir du moment où le sujet, où tu t'investis dans cette idée-là, à un moment ou à un autre, ce sera possible.